Cette semaine encore, les morts se sont comptés par dizaines en Syrie. L'armée s'est attaquée au cœur même de la contestation dans les villes de Homs et de Banias. De nombreux manifestants ont continué d'être arrêtés par les forces de sécurité syriennes. Par ailleurs, l'Union européenne a finalement décidé de donner un peu de voix après plusieurs semaines de protestations. Elle a décidé de prendre des sanctions, notamment contre 13 personnalités du régime, dont le frère cadet du président syrien. Des sanctions utiles à trois niveaux, selon Nadi Mouri, responsable du bureau de Human Rights Watch à Beyrouth et en charge de la Syrie.
Premièrement, symboliquement, c'est très important que l'Union européenne, qui est quand même le plus grand partenaire économique de la Syrie, envoie un signal très clair que ce qui se passe en Syrie est intolérable. Deuxièmement, elles sont importantes parce qu'elles vont pousser quelques personnes dans le régime à revisiter quelques calculs. Est-ce qu'elles vont être déterminantes? La réponse est non. D'où la nécessité de continuer à pousser, à monter la pression sur le régime, et la communauté internationale doit rester engagée sur le dossier de la Syrie.
L'Égypte s'est vue rêver de réconciliation cette semaine. Des milliers d'Égyptiens musulmans et chrétiens ont participé à un rassemblement, alors que le week-end dernier, des affrontements entre salafistes et coptes avaient fait 15 morts. Par ailleurs, le gouvernement égyptien a annoncé qu'il lèverait les restrictions qui pèsent sur la construction des églises. Les manifestations et les rassemblements devant les lieux de culte seront également interdit. Monseigneur Kyrillos William, évêque copte catholique d'Assiout en Moyenne-Égypte, revenait sur le rôle de chaque citoyen pour la stabilité de l'Égypte.
Il faut que nous continuions à construire notre pays tous ensemble, que chacun ait un rôle à jouer, qu'on laisse un peu les anciens coutumes. Nous étions très très passifs, les coptes surtout, éloignés, écartés de la vie politique, ils ne participaient pas aux élections, ils se sentaient un peu de deuxième catégorie. Maintenant, tout le monde parle de la citoyenneté, de l'égalité de tous. Alors, il faut qu'on soit plus positif et ne jamais perdre l'espérance.
La réconciliation, c'est la voie que la Côte d'Ivoire voudrait emprunter. Depuis le départ de Laurent Gbagbo, de nouveaux charniers sont découverts presque tous les jours. Des fosses qui rappellent la violence du conflit entre les partisans d'Alassane Ouattara et ceux du président sortant. Près de 3000 personnes sont mortes dans les affrontements depuis novembre 2010. Le père Alphonse Guessant, directeur de l'œuvre pontificale missionnaire en Côte d'Ivoire, revient sur le processus de réconciliation à accomplir.
Le retour à la paix est souhaité par tous les Ivoiriens et tous les habitants de ce pays. Pour faire l'unité nationale, il faut que chacun se dise la vérité sur ce qui s'est passé. Il faut qu'également chacun accepte d'aimer son prochain, de le regarder autrement, parce que le regard sur les autres a changé beaucoup. Beaucoup de haine, beaucoup de rancune, beaucoup de vengeance dans le cœur. Il faut vraiment que chacun, l'Église et tous les partenaires se mettent ensemble pour mieux avancer.
Une semaine marquée également par le premier acte de représailles des talibans après l'élimination d'Oussama Ben Laden par des soldats américains. Au Pakistan, deux kamikazes à moto ont fait exploser leurs bombes près d'un centre de la police pakistanaise. Autre conséquence de la mort du leader d'Al-Qaïda, le regain de tension entre les États-Unis et le Pakistan. Islamabad n'a en effet pas apprécié le mode opératoire des États-Unis dans cette mission. L'éclairage de Jean-Luc Racine, chercheur au CNRS.
Quelles que soient les tensions, il est pratiquement impossible pour Washington de couper véritablement les ponts avec le Pakistan. Le pays est trop important et tout cela doit être évidemment replacé dans la perspective de départ à moyen terme des forces américaines et des forces de l'OTAN d'Afghanistan. Un Afghanistan où le Pakistan cherche à préserver et renforcer ses intérêts stratégiques.
Cette semaine, l'Argentine a décidé de faire toute la lumière sur le vol de la mort. Un vol en avion au cours duquel furent jetées vivantes à la mer une religieuse française, Léonie Duquet, et quatre autres femmes pendant la dictature. Trois policiers sont accusés d'y avoir participé. Ils seraient notamment les pilotes de l'avion. Pour Guy Orange, président d'honneur de la CAT, il est primordial également de retrouver les commanditaires de l'assassinat.
Là, on arrête des policiers. Mais qui a ordonné ces arrestations? Qui a ordonné ces séquestrations? Le policier est un exécutant. On a beaucoup plus de mal à poursuivre les ordonnateurs de ces crimes. Et je crois que dans une société qui a vécu le drame d'une dictature tortionnaire pendant plusieurs années, retrouver un peu d'équilibre moral, retrouver un peu de ce sens moral pour se reconstruire, entre autres, pas uniquement, par la justice, la punition.
La Terre n'en finit plus de trembler. Après le Japon et le sud des États-Unis ces derniers mois, l'Espagne a été touchée à son tour par un séisme cette semaine. Les catastrophes naturelles, un sujet sur lequel l'ONU vient de publier un rapport. Le document centré sur la gestion des risques vient d'être présenté à Genève. Il dresse un état des lieux mitigé, en cause notamment l'importance des risques en milieu urbain. Selon Alain Lambert, conseiller principal en politique au Bureau des Nations Unies pour la gestion et la prévention des crises, l'homme est pourtant le seul responsable de ces catastrophes.
Des catastrophes naturelles, ça n'existe pas. Les catastrophes sont toujours le résultat d'une erreur de l'homme. Ce n'est pas la nature qui tue, ce sont des erreurs de l'homme qui tuent. Pour que une catastrophe existe, il faut deux choses. Un aléa naturel, c'est-à-dire une tempête, un tremblement de terre, un ouragan, une pluie, une sécheresse, que sais-je. Et puis de la vulnérabilité, c'est-à-dire essentiellement de la pauvreté, du manque d'éducation, du manque de construction aux bons endroits, etc. Donc ce sont les deux éléments qui font qu'un aléa naturel devient une catastrophe. Donc il n'y a pas de catastrophe naturelle.